Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.
Je vous emmène aujourd'hui au Jardin de la Frolle. Et oui, nous sommes tout près de Chauvigny et je vous propose de découvrir ensemble une ferme arboricole et maraîchère en compagnie de François. Bonjour François.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu peux nous présenter ta ferme ?
Eh bien, donc nous sommes producteurs de fruits, donc tout fruit de saison, et puis de végétaux d'ornement et plants potagers aussi, voilà, pour que là, par contre, vous puissiez aménager votre jardin et faire votre production de légumes.
Alors, raconte-moi un petit peu l'histoire, je crois que c'est une histoire de famille ici.
Exactement, voilà. Bon, c'est une histoire qui a commencé un petit peu avant mon âge, voilà. Donc, c'est une entreprise qui a 44 ans, voilà ce qu'il commence à faire. Ce sont mes parents qui se sont rencontrés dans une ferme voisine et puis qui ont décidé de monter leur projet en solo, en construisant donc d'abord une maison et puis en plantant un petit verger et en attendant que le verger vienne à fruits, puisque c'est relativement long, ils ont fait du maraîchage. Et du maraîchage, ils sont allés vers les plants potagers et des plants potagers vers les plants de fleurs. C'était les années 80, voilà la période où on se mettait à fleurir les devants de maison, les balcons, voilà, avec les géraniums, les pétunias, les bégonias et tout ça.
Oui, tu vas nous en parler après, c'est très diversifié, puis là on est au cœur de la ferme. Même la nature autour de nous, c'est très sympa. Donc c'est une agriculture, on dit raisonnée chez vous, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne ?
Alors l'agriculture raisonnée, je pense qu'en 2026, maintenant tout le monde ou quasiment tout le monde est en agriculture raisonnée, hein, au minimum. Le principe c'est que on cultive donc des plantes qui sont appréciées par nous-mêmes pour ce qui est des fruits, mais aussi par des ravageurs, donc des insectes souvent, qui aiment bien picorer soit l'arbre, soit le fruit directement. Et puis, comme nous, nos plantes peuvent être sensibles à des maladies aussi, voilà. Donc l'objectif, c'est d'essayer de produire des fruits qui ressemblent aux fruits qu'on recherche, hein, et qui quand même ne soient pas trop attaqués par des ravageurs et qui puissent se conserver un minimum chez vous, surtout quand vous achetez des pommes. Voilà, en général, vous voulez que vos pommes se gardent au minimum quelques jours, voire quelques mois pour les plus exigeants. Donc on est obligé de protéger nos cultures. Donc il y a différents moyens de lutte aujourd'hui. Et c'est là qu'on vient à l'agriculture raisonnée. C'est que bon, il y a la lutte chimique que vous connaissez tous, hein, comme quand vous avez mal à la tête, vous allez prendre votre bon vieux Doliprane. Bon, on a aussi notre petite panoplie de produits qui nous permettent de régler différentes maladies de base. Mais c'est aussi, comme vous, de temps en temps, vous faites prescrire de l'homéopathie. Nous, on a, en particulier sur les insectes, ce qu'on appelle des auxiliaires. Donc, on va intégrer ou favoriser des insectes qui vont par eux-mêmes réguler d'autres insectes qui nous embêtent.
Est-ce que ça ne serait pas le cas de la coccinelle ?
Exactement, voilà, c'est le plus connu. Hein, donc, c'est, alors, en réalité, c'est la larve de la coccinelle, hein, qui mange beaucoup de pucerons. Voilà. Et la nature étant bien faite, alors pas forcément pour nous, mais pour eux, vous avez toujours d'abord les pucerons qui sortent, en général, à partir du 15 avril, voilà. Et maintenant, justement, alors je ne sais pas quand est-ce que vous allez diffuser cette émission, mais voilà, disons que quand on arrive fin mai, début juin, en général, vous regardez vos petits foyers de pucerons là, avec les feuilles toutes tordues, vous ouvrez, et là, vous voyez des larves de coccinelle qui vont être là en train de les manger. Voilà. Et d'abord, la nourriture se fabrique, et ensuite...
Le frigo se remplisse avant.
Exactement, voilà. Et donc, c'est ce qui fait que, malgré qu'on sait que les larves de coccinelle sont capables de manger les pucerons et les pommiers, on est quand même obligé, malheureusement, d'intervenir, nous, en amont. Parce qu'une fois que la larve de coccinelle arrive pour manger le puceron, c'est souvent déjà trop tard pour nous.
Et puis on le voit dans le cas des fèves, hein, ceux qui font des fèves le connaissent, oui. C'est très compliqué une fois qu'elles sont installées. Tu as les fourmis, je crois aussi, hein, qui viennent là-dessus, mais enfin c'est compliqué pour attraper le...
C'est-à-dire que les fourmis sont eux-mêmes auxiliaires des pucerons, ils s'entendent très bien. tout cela. Voilà. Bon, après, nous, on se tracasse moins des fourmis, puisque la fourmi par elle-même ne fait aucun dégât sur les plantes, hein, enfin, pour nous.
Et on a aussi, je crois, des plantes assez complémentaires. Il n'y a pas les œillets d'Inde ou qui peuvent, à côté de certains plants de légumes, non, contribuer à...
Oui, 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 tout à fait, voilà. Ouais, les œillets d'Inde, en effet, alors limite les nématodes. Donc, il y a un ver du sol qui mange encore quelques tomates de temps en temps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant de planter les œillets d'Inde à côté. Après, il y a énormément de plantes aromatiques qui vont faire fuir des ravageurs. Voilà, après, c'est pas toujours si simple que sur le papier. C'est pas parce que vous allez mettre des œillets d'Inde dans vos tomates qu'il y aura zéro puceron, zéro mildiou, voilà, malheureusement.
On a tous des petites astuces, hein, de jardinier, mais en herbe. Mais il faut du temps, il faut comprendre comment ça marche. Et puis, suivant le sol peut-être aussi qu'on a, bon bref, c'est plus...
En fait, c'est un jeu de combinaison et de raisonnement, hein, d'où on revient à notre agriculture raisonnée au départ. C'est en fait, c'est un raisonnement global qu'il faut avoir. On n'a pas un problème, une solution. En fait, il faut raisonner tous ces problèmes et en déduire différentes solutions. C'est ce qui fait par exemple qu'en pommes, vous voyez aujourd'hui, on a couvert nos pommiers avec des filets, hein, donc ce qui permet de... On n'a plus du tout de problème de carpocaps. Donc le carpocaps, c'est le petit ver de la pomme que vous connaissez tous. Hein, voilà. Rien que le fait d'enrubaner notre pommier de ce filet fait qu'on n'a plus de carpocaps aujourd'hui. Donc ça, c'est génial. Par contre, on a recréé un autre problème, c'est qu'on a plus de pucerons, parce que vous imaginez le filet, bah, limite le vent, ça crée une petite ambiance cocooning dessous, que le puceron adore, parce que le puceron, il aime le 20 degrés, avec une température un peu humide, enfin une hygrométrie un peu humide, voilà. On règle un problème, on en crée un autre. À nous de choisir, en gros, quel problème on veut et quelle solution. Voilà.
Et justement, en termes de solutions, je crois qu'au niveau des produits phytosanitaires, vous avez quand même une démarche la plus puriste, enfin, vous essayez, hein, possible, notamment pour les fraises.
C'est un plaisir pour personne que de traiter. Il faut bien que nos citoyens en soient conscients. C'est vraiment la purge d'y aller. Donc, l'objectif, c'est d'en faire toujours le moins possible. Alors il y a des maladies comme la tavelure sur la pomme, on est obligé d'avoir un programme rigoureux puisque c'est une maladie où si on commence à en avoir sur le pommier, elle se multiplie et elle est incontrôlable, donc on est obligé d'anticiper. Après vous avez d'autres fruits comme la fraise où on va récolter dedans tous les jours ou tous les deux jours. Sur ces fruits là on ne peut pas traiter puisqu'on n'a pas de délai qui permettent d'évacuer les matières actives qu'on va installer dessus. Donc là, en fraise, alors surtout que nous, elles sont toutes cultivées sous abri. Alors, c'est un avantage et un inconvénient. C'est que le fait de la culture, d'avoir une culture sous abri permet justement d'intégrer plus facilement des auxiliaires qui vont manger par exemple les pucerons, ce qu'on ne pourrait pas faire ce qui se fait moins dans un grand verger de pommiers en extérieur, où quand vous mettez les coccinelles, elles vont plutôt avoir tendance à s'envoler. Alors que là, dans une serre, c'est un milieu fermé. Voilà.
Alors justement, tiens, bon, on va attaquer, ça nous a donné en plus envie de venir goûter ces fraises. Qu'est-ce que vous faites comme différents types de cultures? Donc il y a des fruits, alors je vais les citer, il y a des plants, il y a des fleurs de saison, des arbustes, des arbres fruitiers. Oui. Tu nous détailles un petit peu, on commence par quoi? On reste sur les fraises et tout ce que tu proposes en fruits?
En fait, il y a deux grandes catégories de produits chez nous. On fait des fruits à manger. Hein. Donc, si on démarre du printemps, vous avez les fraises, les framboises, les cerises, pêche, tout petit peu d'abricot quand ça veut. Et puis, arrive la fin de l'été avec les prunes, les poires et les pommes. Ça, c'est les grandes lignes, voilà. La production de fruits, donc, qui représente à peu près la moitié de l'activité chez nous. Des fruits qu'on propose, nous, pour l'essentiel, en libre cueillette, c'est-à-dire que vous venez avec votre panier, on le pèse à vide, vous allez cueillir et on le repèse à plein.
Alors attention, je crois que c'est que le matin en ce moment, il y a peut-être des petits horaires, hein, pour la cueillette.
Exactement. Alors, pour toute la cueillette, il faut consulter le site internet régulièrement, qu'on essaye de mettre à jour le plus souvent possible. Au printemps, on est sur des courtes périodes de cueillette. Hein, on fait 3 matinées de cueillette. Là, très rapidement, les températures vont se réchauffer. Il va y avoir du volume de framboises, de cerises. Oui. On a plutôt tendance à être sur une cueillette tous les matins. Et après, les pommes, les poires, là, on cueille toute la journée sur les horaires d'ouverture. Voilà.
Donc ça, c'est vu. Alors, on a aussi des plants que vous proposez à la vente ?
Exactement. Voilà. Après, notre deuxième activité, donc, c'est la production de végétaux pour replanter dans le jardin, avec donc au printemps tout ce qui est plants de fleurs, plants potagers, hein, qui permettent d'aménager les balcons, les jardinières et le jardin chez vous. Et puis on cultive des arbres et des arbustes, là que vous plantez plutôt l'automne et l'hiver, donc toujours pour aménager votre jardin.
Des fleurs aussi de saison ?
Et bien tout à fait, au printemps, voilà, surtout au printemps, on fait tout ce qui est géranium, pétunia, bégonia, et puis bah, toute une gamme de plantes pour ornementer vos petites jardinières.
Chrysanthèmes, je crois.
Et à l'automne, les chrysanthèmes, c'est le gros dossier.
Tu l'as dit, ça s'étend sur combien en hectares, hein, on parle en 12, 10, 12.
Exactement, voilà, on est sur... alors ça, bon, ça cause plus beaucoup aux gens, hein, parce que nous en fait...
6 000 mètres carrés, un hectare. Mais
bon. Voilà, on a une douzaine d'hectares de vergers, voilà. Après la pépinière, on est en mètres carrés, hein, on est même pas en hectare, voilà. Oui. Et on est 10 personnes à travailler en moyenne sur l'année, avec une grosse base de permanents, hein, donc parce qu'il y a du travail toute l'année en fait avec nos différentes productions. Et puis on complète avec quelques saisonniers, donc au printemps pour le palissage des fleurs de fraisier, pour l'éclaircissage des pommes. Au mois de mai-juin, fin mai début juin, et puis après au moment de la récolte des pommes et des poires.
D'accord. Vous avez, alors on le voit, des comment on appelle ça,
des
serres, merci, avec des toitures, c'est nouveau.
Alors ça, c'est la serre qui se fait depuis les années 80. Hein, on appelle ça multi-chapelle. Donc une chapelle étant un arc de cercle. Et donc nous, on est en donc la structure est métallique, hein, en acier galvanisé, et après la couverture est en plastique. Voilà, un plastique qui tient dans l'idéal entre 5 et 10 ans. Ça existe en verre. Le problème du verre, c'est que quand vous accueillez du public comme nous, s'il y a une grêle, il faut que tout le monde sorte en urgence. Voilà. Et passer en verre dit sécurite, hein, donc le même verre que vous avez sur votre pare-brise qui s'éclate en petits morceaux et qui vous font pas mal, ça coûte une fortune. Donc aujourd'hui, il se monte quasiment plus de serre verre. Nous, la serre, c'est important. Et en effet, qu'on a développé beaucoup les serres ces 10 dernières années, ça nous protège en fait de la grêle, enfin des intempéries tout court d'ailleurs, hein, mais surtout de la grêle qui est notre grand stress, sachant qu'on a grêlé deux fois, une fois en 2012 et une fois en 2022, pas des demi-grêles, hein, vraiment des grêles à tout abîmer. Donc ça nous permet en fait d'avoir en gros une petite moitié de nos productions qui sont aujourd'hui protégées, donc soit par des serres, soit par des filets pour les pommes et les poires.
On les voit là, les filets d'ici, c'est impressionnant. On a le plan aussi, c'est impressionnant, hein, comme petit jardin. justement, je vois réserve d'eau, c'est un sujet, j'imagine, sensible, l'eau. Enfin, il y a une gestion particulière.
Alors, c'est un mix des deux. En fait, on consomme forcément beaucoup d'eau parce qu'il y a beaucoup de plantes à abreuver. Donc, l'eau, en fait, comme vous voyez sur le plan, on a une réserve, enfin même deux réserves d'eau qui nous permettent de collecter toutes les eaux de toiture, des serres, hein, rien n'est perdu, tout retourne dans la réserve. Après, l'été, quand on a un mois sans eau, on est obligé d'aller rechercher de l'eau parce que notre réserve, nos réserves ne suffisent pas. Donc, on est connecté à un réseau depuis la rivière Vienne. Hein, donc, on a 2 km de canalisation qui nous permet aujourd'hui de réalimenter nos réserves d'eau. Et d'arroser en direct, parce que toute la partie pomme et poire est arrosée directement depuis la rivière, sans passer par une réserve entre les deux. Ce sont des arbres, donc on a besoin d'irriguer uniquement quand on est en période de sécheresse. Voilà. Alors c'est sûr que sans eau, on ferme boutique. Hein, c'est toujours difficile à entendre. C'est sûr que voilà, nous, on est obligés d'avoir de l'eau. Comme beaucoup de nos cultures est en pot, Il faut impérativement de l'eau tous les jours. Pas forcément beaucoup, hein. On a beaucoup de cultures irriguées par goutte à goutte. Voilà, donc on essaye d'optimiser quand même la consommation d'eau. Mais quoi qu'il arrive, il nous faut de l'eau tous les jours.
Bon, je vois aussi des quoi, panneaux photovoltaïques ici. Il y a peut-être aussi une installation qui a été réfléchie par rapport à l'électricité.
Oui, aujourd'hui on a deux installations photovoltaïques. Une qui est revendue directement à Sorégie et une qui nous permet d'être en autoconsommation pour l'été. En fait, nous, on consomme beaucoup d'énergie. On a la chance, entre guillemets, d'utiliser beaucoup, mais on ne devrait pas parler comme ça d'ailleurs, d'utiliser beaucoup d'énergie l'été quand il fait beau, puisqu'en fait, ce sont nos pompes d'irrigation qui consomment et nos chambres froides qui consomment de l'électricité. Donc l'autoconsommation est très intéressante pour nous. Voilà. On consomme moins après l'hiver quand il y a moins d'ensoleillement. Nos pompes d'irrigation, bon, on n'arrose plus hein, l'hiver, il n'y a pas besoin d'eau ou très peu. Et nos chambres froides, bah, du coup, sont plus proches. Comme nos chambres froides sont entre 0 et 2 degrés, on est plus souvent proche de la température extérieure. Voilà.
Pour finir ce petit tour d'horizon, enfin ce grand tour d'horizon, on peut peut-être parler de vos projets. Alors bon, il y en a peut-être qui sont encore en réflexion, mais est-ce qu'il y a des choses un petit peu annoncées? C'est quoi un petit peu les années à venir où vous avez des projets?
Alors il y a toujours des projets. Après, il faut arriver déjà à faire ce qu'on fait. Hein. Voilà, l'évolution des pratiques culturales fait que c'est de plus en plus difficile de cultiver aujourd'hui des fruits. Il y a beaucoup de retraits de matières actives, donc de produits phytosanitaires, comme on disait. Et les solutions, enfin le climat fait qu'on part vers des étés très, trop chauds. Dégelées printanières, on a la chance de ne pas en avoir eu ces dernières années. Enfin, depuis 2022, on n'en a pas eu. Hein,
mais... Est-ce qu'on parle encore de Sainte-Glace en 2026, vous croyez?
On les a toujours à l'esprit, voilà. Et donc du coup, on a beaucoup investi pour améliorer justement nos pratiques. Et en fait, nos projets, bah, c'est de continuer de se former et d'acquérir des compétences pour produire toujours mieux. Voilà, ça c'est un premier projet qui ne va pas se voir physiquement par une construction de quelque chose, mais qui nous prend énormément d'énergie. Après, donc, on a une construction de bâtiments en projet parce qu'en fait, on manque toujours de place pour stocker tous les matériels adaptés à toutes nos productions. Ça fait beaucoup de stockage. Et puis, dans la partie verger, on va replanter de la cerise qui était actuellement complètement découverte, hein, cultivée comme un cerisier dans votre jardin. Et demain, on va essayer de passer avec des protections bâches plus filet pour éviter le petit
merles, hein.
Pour les merles, pour le ver de la cerise, enfin contre le ver de la cerise, pareil où c'est un petit moucheron qui vient pondre dedans, il faut empêcher le moucheron d'entrer et puis protéger des éventuelles fortes pluies, grêles et tout ça. Voilà.
On retrouve donc, ou ailleurs au cas où.
Une grosse demande sur la cerise et aujourd'hui on arrive. Alors on pourrait le faire, mais sauf qu'au bout d'un moment en fait les vers sont là et on peut plus vendre nos cerises, voilà. Donc, on va essayer d'améliorer ça, voilà.
Okay. On va peut-être rappeler comment est-ce qu'on vient goûter tous ces fruits. Donc, on vient à la ferme acheter les produits directement.
On a commencé, enfin, tout au moins nos parents ont commencé par les marchés. Hein, on s'est fait connaître comme ça. On a arrêté en 2019, juste avant le Covid. Et depuis, on commercialise pas tout, mais presque tout sur place directement. Directement à la Frôle et une petite partie l'hiver chez des revendeurs locaux comme le Leclerc de Chauvigny, comme la boucherie chez Mélanie et Clément à Chauvigny aussi, voilà, pour rester dans le quartier. Oui, à Jarne, parce qu'on n'est pas à Chauvigny en effet, oui. Voilà. Mais dans le quartier, voilà, la petite Cop à Bonne, la Cop à Bonneuil, en ultra local, on va dire. Voilà.
Bon, mais on a bien tout compris. Donc, je rappelle quand même les ouvertures donc de la ferme. C'est du lundi au samedi, 8h30 midi et 14h-18h. On est donc à la Frôle. Hein, donc, on suit un peu le château de Touffou et puis c'est tout bien indiqué. Et donc, le site internet, tu l'as en tête?
Oui, www.lesjardinsdelafrôle.fr.
Voilà. et l'adresse mail au cas où une grosse commande à préparer. C'est contact@lejardindelafrole.fr. Bah, écoute, François, est-ce qu'on a fait une petite chose peut-être que j'ai oublié de te demander ou pour conclure, parce qu'on a fait un bon tour. Je pense que maintenant, il faut venir. Hein.
C'est ça. Oui, il n'y a plus qu'à venir faire un petit tour, prendre des idées, se balader. C'est fait pour ça. On a la chance d'être à la campagne. Alors, ça fait un petit peu de route pour les gens qui viennent nous voir. C'est rarement sur la route du boulot pour personne. Mais les gens viennent dans l'idée de la balade, d'être au calme, détendu. Voilà.
Ouais, parce que sur 12 hectares, moi qui ai le plan sous les yeux, je peux vous dire que c'est une super balade. Et puis alors, on ramène que des bonnes choses. Et comme si ça venait du jardin. Donc, je vous rappelle le jardin de la Frôle à Bonne. Venez faire vos petites courses. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.
Court-circuit, portrait des hommes et des femmes qui font la ruralité.
Ils sont le tissu économique et social de nos campagnes. Court-circuit. Sur ROC 103.7.